Axel Villard, on retourne 250 000 ans en arrière pour découvrir le quotidien des hommes de Néandertal de la vallée du Rhône. C'est votre une de la science aujourd'hui.
Oui Daniel, on remonte le fil de l'histoire. J'ai presque envie de dire on remonte le fil dentaire de l'histoire parce que c'est avec seulement deux molaires que cette étude a été menée. Les deux dents en question proviennent du site archéologique de Peyre, c'est en Ardèche. Et elles ont été étudiées par une équipe spécialisée en Australie. Elles nous apprennent énormément sur le quotidien de ces Néandertaliens. Et pour en parler, nous sommes en studio avec vous, Marie-Hélène Moncel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé ce site de Peyre pendant 13 ans. Vous êtes directrice de recherche pour le CNRS, membre de l'équipe Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Muséum. Alors j'imagine qu'avec la quantité d'informations nouvelles que vous avez reçues, vous ne regrettez pas vraiment d'avoir laissé vos collègues australiens couper ces dents en deux. Hein.
Ah non, 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 pas du tout. De toute manière, ces dents ont été analysées auparavant, avant l'étude. On en a fait des CT scans, donc des microscans. Donc on a toutes les informations nécessaires. Et je pense que ça valait la peine parce que les résultats sont assez éblouissants. Et ça nous apporte énormément d'informations très fines sur le comportement de ces enfants néandertaliens.
Alors on va parler ensuite de ce site, mais quelles sont les choses qui vous ont le plus étonné quand vous avez reçu les résultats?
Tout. Tout m'a étonné. Ce qu'ils ont fait sur le barium, sur le plomb, les informations sur l'âge de naissance, sur les moments de leur vie où ils ont été malades. Toutes ces informations nous rendent tellement plus proche le comportement de ces enfants néandertaliens. Alors on a déjà bien sûr beaucoup d'informations sur les néandertaliens. On sait comment ils circulaient, ce sont des chasseurs-cueilleurs, on sait comment ils s'adaptaient à différents climats et environnements. Mais là, on est rentré encore plus en détail dans la vie de ces enfants.
Alors pour comprendre ces résultats, parlez-nous d'abord un petit peu du site. Racontez-nous un peu son histoire néandertalienne, parce qu'elle est longue et elle a été longuement occupée cette cavité.
Voilà, donc le site en fait, je l'ai fouillé pendant très très longtemps, ça valait la peine parce que c'est un site qui a livré plusieurs occupations je dirais presque pré-néandertaliennes, puisqu'elles sont datées de 250 000 ans. Les vrais néandertaliens classiques, ceux qu'on représente dans toutes les images, les reproductions, datent de 100 000 ans. C'est là où ils ont acquis tout leur caractère. Mais avant, il leur faut quand même plus de 300 000 ans pour acquérir tous ces caractères.
Mais alors, vous êtes en train de nous dire que dans cette cavité, il y a 150 000 ans d'histoire des générations qui se sont succédées.
Non, la cavité, les occupations se focalisent sur environ 250 000 ans, leur âge. D'accord. Il y a plusieurs occupations qui datent autour de 250 000 ans. Mais on est en plein milieu de la période où les néandertaliens vont acquérir leur caractère anatomique, qui vont les conduire au vrai néandertalien il y a 100 000 ans. Mais ce qui est intéressant pour moi, qui travaille sur les comportements, ils acquièrent également toute leur manière de faire et de vivre qui vont caractériser les derniers néandertaliens. Donc en fait, c'est une période un peu clé, une période intermédiaire qui nous permet de comprendre la logique néandertalienne en quelque sorte. Ah oui. Et pourquoi pas un jour nous permettre d'aller plus en avant pourquoi ils ont disparu.
Alors Marie-Hélène Moncel, parmi les découvertes les plus étonnantes dans ces dents, il y a ce plomb qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver. Comment est-ce que vous expliquez la présence de ce plomb dans l'émail de ces dents d'enfants?
Alors, donc, ils ont l'étude des dents, donc ils ont analysé les dents en particulier comme des cernes à l'intérieur des dents, qui sont des éléments de croissance de ces dents, et ces dents enregistrent un certain nombre de paramètres, comme les vôtres. Quand vous grandissez, vous enregistrez un certain nombre de paramètres liés à votre alimentation, liés à votre environnement. Et donc, ils ont identifié une forte concentration de plomb à un certain moment de la vie.
Un peu comme pour les arbres, il y a ces cernes qui permettent de connaître un peu
l'histoire. Mais c'est encore plus fin, et surtout, cette équipe a mis au point des méthodes d'analyse et d'enregistrement extrêmement fines qui permet d'analyser même au niveau de la saison, puisque un des enfants, ils ont démontré qu'il était né au printemps, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, que les deux ont été malades pendant l'hiver, parce que les cernes, enfin les petits éléments de croissance montrent des perturbations liées à ça, par les isotopes notamment de l'oxygène. Et le plomb, donc ça a effectivement beaucoup posé de questions, donc du coup ils m'ont demandé, mais est-ce qu'il y a des éléments, des mines de plomb dans les environnements? Et du coup j'ai cherché donc tout autour, et effectivement dans un périmètre de 25 km, on a des mines de plomb. Donc on a supposé que ces enfants avaient sans doute bu de l'eau très chargée en plomb, lors de leur séjour dans une cavité où il y avait cette forte teneur en plomb qui avait contaminé leur dentition.
Et on peut imaginer alors que ces enfants étaient atteints de saturnisme à cause de ce plomb?
Alors je ne suis pas compétente pour dire le degré de saturation qu'ils avaient. Est-ce que ça pouvait effectivement conduire à un saturnisme? Oui, pourquoi pas? Parce qu'ils ont été capables de le mesurer, c'est donc que la concentration était assez importante. Mais c'est très intéressant parce que on sait que ces individus sont des chasseurs-cueilleurs et qu'ils sont mobiles. Ils bougent selon des raisons qui sont liées au gibier, à la matière première, etc. Sans doute aussi d'autres raisons non alimentaires qui nous échappent. Mais là, ça nous montre aussi le périmètre minimum de circulation de ces individus, de ces enfants, même si on savait qu'il existait, lorsqu'on travaille par exemple sur là où ils allaient chercher des silex pour fabriquer leurs outillages, on a aussi une idée du territoire. Mais là, c'est un élément supplémentaire de ce territoire.
Une dernière question.
Oui, est-ce qu'on voit dans ces dents les différents déplacements? Je veux dire, on sait qu'on était dans telle cavité, puis après vers cet endroit où il y a du plomb, puis on est allé vers un autre endroit. Est-ce que dans les dents, on voit les différentes cavité visitée ou déplacements ?
Non, on peut simplement dire qu'ils sont allés dans une cavité où il y avait du plomb. Or, quand on fait, donc on sait que dans un périmètre de 25 km, on a des mines de plomb qui étaient exploitées au Moyen-Âge, qui étaient connues. Maintenant, on ne pourra jamais, peut-être en analysant la particularité de ce plomb, je ne pense pas qu'ils puissent aller jusque-là, dire exactement ça vient de cette mine ou ça vient de cette zone où ils ont circulé.
Ouais. Inouï quand même tout ce qu'on peut faire dire juste à des dents. Ça vous a surpris vous-même.
Il faut aussi parler de mots du barium.
Le
barium, voilà, la consommation de lait, ça a permis aussi de dire qu'un enfant a été sevré à 2 ans et demi, qui correspond un peu à ce qui se passe dans des populations non industrielles. Et donc, à partir de 2 ans et demi, il s'est mis à consommer ce que proposait le groupe et beaucoup de viande, puisqu'on sait que les Néandertaliens sont des grands carnivores, même s'ils consomment aussi autre chose, puisque le tartre sur les dents a montré qu'ils consommaient aussi des végétaux, même des céréales sauvages mis en bouillie et cuites. Donc, on entre dans un univers extraordinaire sur ces hommes.
Oui, oui, passionnant, passionnant. Merci Marie-Hélène Moncel.
C'est moi qui vous remercie.
Et à demain, Axel.
À demain, Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 3 patients paralysés retrouvent une motricité partielle de leurs jambes grâce à des stimulations électriques de la moelle épinière. C'est un pas de géant pour le domaine, accompli par une équipe de l'École Polytechnique de Lausanne. Non seulement ces 3 hommes ont retrouvé un contrôle et une motricité des muscles, des cuisses et des mollets, mais ce contrôle a persisté une fois les stimulations électriques désactivées, précisent les chercheurs. Ils ont tous pu remarcher sur de courtes distances avec l'aide de harnais. Il reste 23% de terres sauvages sur Terre. L'estimation nous vient de chercheurs australiens dans la revue Nature. Ces zones dites sauvages n'accueillent aucune activité humaine, industrielle ou agricole, mais peuvent contenir des populations indigènes vivant de la chasse ou de la pêche. Et selon les chercheurs, ces zones sauvages auront un rôle crucial pour limiter l'impact du réchauffement à venir sur les écosystèmes. Et pour terminer, comment savoir quand le panda géant est prêt à s'accoupler? Il suffit d'ouvrir ses oreilles. L'espèce très solitaire se reproduit difficilement en captivité. La femelle panda n'est féconde que 48 heures par an et toute tentative de rassemblement trop brusque des deux partenaires entraîne un combat plutôt qu'un ébat. En analysant les vocalises des pandas en période naturelle de reproduction, des chercheurs ont identifié ces cris particuliers, des cris particuliers que s'échangent mâles et femelles lorsqu'ils sont disposés à s'accoupler. L'idée serait donc maintenant de diffuser ces chants par haut-parleur aux pandas avant de les rassembler pour savoir si c'est le bon moment et éviter les déconvenues.